Bonjour.
Bonjour.
Je salue particulièrement nos amis de Jeunesse à Mission. Mais c'est étonnant. C'est étonnant de voir aujourd'hui ce groupe de Jeunesse à Mission aujourd'hui. Et quand vous regardez le thème que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est la mission de Jésus-Christ sur Terre. Vous ne voyez pas une coïncidence là-bas? Oui, parce que nous avons le groupe de jeûne et sa mission, et nous allons parler dans notre jeûne la mission. Et ce jeûne, c'est Jésus-Christ.
J'ai coupé.
Bon, je suis très content ce matin de monter devant vous pour parler justement de cette personne. J'allais dire de ce personnage. Parce que c'est un personnage extraordinaire. Un personnage qui a tout changé. Vous savez, depuis qu'il est né, il y a eu un avant Christ et un après Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il est né, tout a changé et on a commencé de nouvelles choses. C'est pour cela que maintenant, l'année dans laquelle nous trouvons, même si on ne le dit pas, c'est 2024 après Jésus-Christ. Mais pourquoi? Ce n'est pas le seul personnage qui a existé. C'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire par rapport aux autres personnes qui ont vécu avant lui. Je suis donc très content de parler de lui maintenant. Et pourquoi aussi? C'est parce que dans cette période de l'année, nous sommes dans une période spéciale où trois événements se succèdent et se complètent. Le premier événement, c'est Noël. Vous savez, il y a quelques jours, nous avons fêté Noël. Et après Noël, après une semaine, nous avons fêté la fin d'une année. La fin d'une année. Et vous savez que quand c'est la fin d'une année, ça se réjouissance. Mais pour les chrétiens, c'est aussi l'occasion de remercier Dieu, de rendre grâce à Dieu, parce qu'il nous a protégés de la toute l'année. Mais un jour après, nous avons fêté le début de notre année. Donc, ces trois événements, moi je les mets en parallèle et vous allez voir pourquoi. Parce que ces événements sont complets. Nous allons parler de la mission de Jésus. Nous allons parler de Noël. Noël. C'est une fête. C'est une fête au cours de laquelle les chrétiens commémorent la naissance du Christ. C'est une fête. Mais pour nous chrétiens, ce n'est pas cette fête qui nous intéresse. Pour nous chrétiens, c'est le sens même de ce que nous représente. Noël, c'est quoi pour nous? Noël, c'est la venue. Ça veut dire une personne est venue. Et cette personne est Jésus. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, ce n'est pas ce que nous faisons chaque année pour fêter, pour boire, pour nous habiller, pour visiter les amis, pour les acteurs de Noël, mais c'est surtout de nous demander, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Quel est le motif de sa visite ici? Même si ça n'a duré que 33 ans, mais ça a été un moment extraordinaire, une révolution, comme je viens de le dire.
Matthieu 1, 18 à 23. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se retrouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen.
Ce paragraphe que j'ai choisi, En fait, je l'ai choisi pour montrer que Jésus, déjà, à sa naissance, il avait une mission. Cette mission, c'était... À ça, il avait une mission. Et cette mission, c'était de sauver le monde. Sauver le monde de la prédiction. C'est une période, quand on se rappelle de l'Ancien Testament, on sait que quel genre de punition Dieu donnait quand il avait des péchés. Et quand il a décidé d'envoyer son fils, c'était justement pour que son fils puisse venir sauver le monde. Et quand on regarde l'origine du mot Christ, 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 en hébreu, c'est Messia. Et Messia, ça veut dire envoyé. Et quand c'est traduit en grec, ça fait Christos. Et en français, Christos est devenu Christ. Donc, c'est pour vous montrer que Jésus, le Christ, c'est le Messie, c'est l'envoyé. Donc, c'est quand on l'envoie en mission. Et lui, on l'a envoyé pour sauver le monde. Donc, sa mission, c'est de devenir comme libérateur pour sauver le monde. Et d'ailleurs, son mot libérateur a créé une confusion parce que les Juifs de l'époque, ils croyaient recevoir quelqu'un qui est un roi important, qui vient pour sauver, pour diriger, sauver le peuple juif, pour la libération de l'oppresseur, donc des Romains. Mais ils ont vu un petit garçon qui couchait dans la pauvreté, dans une étable. Et ils ont dit, ben, mais ce n'est pas ça, ce ne sont pas des amis. Mais pourtant, c'était lui. C'était Jésus le libérateur. C'était le Messie. Alors, notre question, on n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer d'aller vite. Mais la question, je vais très rapidement poser cette question. Pour se dire, pourquoi est-ce que Jésus est venu? Noël, c'est la venue de Jésus. Mais pourquoi? D'abord, Jésus, c'est l'enfant de l'abandonné. C'est le Fils de Dieu. Ça veut dire que c'est venu, c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Nous parlons de mission. Quand on parle d'une mission, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui envoie, donc c'est le responsable, qui envoie quelqu'un qui va aller en mission. Et la mission, ça veut dire qu'il va faire quelque chose. Et quand il a fini la mission, il vient un rapport. Ceux d'entre vous qui ont travaillé dans l'administration, ça, quand vous allez en mission, vous faites un rapport à votre supérieur. Et qui juge, bon, en tout cas, c'est comme ça que ça se fait. Jésus aussi est venu dans le monde, il a été en mission, et à la fin de la mission, quand il est remonté au ciel, il a fait un rapport. Nous trouvons ça dans la Bible. Voilà. Donc, la première raison, c'est qu'il a été envoyé par son père, comme le prophète l'avait déjà annoncé. Jésus, pour venir, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un enfant qui est né comme les autres. Même si à ce moment-là, il y avait d'autres enfants qui naissaient. Il est venu parce que c'était déjà annoncé beaucoup de centaines d'années avant, dans l'Ancien Testament. Vous savez que l'Ancien Testament n'a pas été écrit au même moment que le Nouveau Testament. Donc, ça avait déjà été annoncé. Ça avait été annoncé par Michée, chapitre 1, verset 1, qui disait que Jésus naîtrait à Bethléem en Judée. Donc, on connaissait déjà exactement où Jésus devait naître. Isaïe disait, ou lui disait qu'il allait même naître d'une fille vierge. Maintenant, nous le savons. Mais à cette époque, savoir que dans centaines d'années, il y a un garçon qui naît, plutôt un roi, qui naîtra d'une fille vierge en Judée. À Nazareth, c'était vraiment difficile de croire. Et ce que nous venons de lire aussi, c'est que l'ange est venu annoncer cette nouvelle à Marie, même lui donner le nom. Et nous voyons aussi que Ésaïe 7,14, on connaissait déjà le nom de Jésus avant qu'il naisse, le nom d'Emmanuel, de Dieu avec nous, Dieu avec nous. Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, qui normalement n'était pas avec les gens, souvenez-vous de l'Ancien Testament, où l'arche d'Israël, Dieu n'était pas avec le peuple. Mais ici, Quand Jésus est né, cette séparation a été arrêtée et Dieu est avec nous. Et comment est Dieu avec nous? Parce que son fils qui est né et qui est venu vivre parmi les hommes, son fils, ce fils-là, ce Jésus-là, était Dieu. Parce que Jésus lui-même dit, celui qui a vu mon Père m'a vu. Tout ce qui m'a vu a vu le Père. Donc ça veut dire que Dieu, qu'on ne voyait pas. N'oubliez pas ce qu'il a dit à Moïse. Moïse, retourne-toi, retourne-toi. Parce que personne ne peut me voir. Parce que si quelqu'un qui me voit ne peut pas se venir. Mais maintenant, avec Jésus, nous avons eu la chance de le voir. Parce qu'il a vécu avec nous pendant 3 ans. Et autre raison pourquoi Jésus est venu, c'est pour apporter la bonne nouvelle en offrant à sa vie comme victime volontaire et innocente. En fait, quand nous voyons la mission de Jésus-Christ, il est venu pour beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? La première chose qu'il est venu faire, c'est de nous enseigner à apporter la bonne nouvelle, à apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, il était d'abord nous enseigner. Vous voyez que quand vous lisez les Évangiles, chaque fois que les gens quelque part, il y avait une foule de gens qui venaient pour être enseignés. Donc, il était d'abord un enseignant. Il nous enseignait quoi? La bonne nouvelle du nouveau royaume, de la vie après cette vie-là, de la vie où nous serons. C'est le royaume des cieux. Mais il est venu aussi pour prendre la place des hommes pécheurs pour subir les condamnations. Nous avons vu que c'était notre Sauveur. Tous ces hommes étaient condamnés à mort à cause du péché, parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, quand Jésus est venu, c'était pour effacer ça. Il a lui-même accepté de prendre sur ses épaules nos péchés. C'est extraordinaire. Il est venu aussi pour nous montrer aux hommes qui est Dieu et comment dire eux. Pour montrer aux hommes qui est Dieu, parce que lui étant Dieu, vous en pouvez voir qui est Dieu. Et comment Dieu est, ça veut dire comment il se comportait, étant Dieu. Les hommes pouvaient apprendre de lui, apprendre que Dieu est comme son fils, et comme Jésus. Et nous verrons plus tard quelles sont les caractéristiques, quels sont les comportements, quelles sont les qualités que Jésus a, que nous pouvons imiter, parce qu'elles sont les qualités de Dieu. Et il est venu aussi pour offrir aux croyants la possibilité de devenir enfants de Dieu. Tout ça, nous le trouvons quand Jésus dit, à tous ceux qui m'ont cru, à tous ceux qui m'ont cru, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ça veut dire que nous avons avantage à quoi? Nous avons avantage à aller de son côté pour que nous puissions être qualifiés d'enfants de Dieu. Bon. Jésus a vécu. Il a vécu sur terre pendant 33 ans. Mais nous savons qu'il a laissé son ministère seulement pendant 3 ans, entre 30 ans et 33 ans, quand il est mort. Bon, Jésus avait beaucoup de qualités parce que c'est un Dieu, c'est un. Il n'avait pas de péché. Mais nous, chrétiens, nous avons ce que nous appelons la sanctification. La sanctification, c'est ce processus que nous devons avoir à nous, d'imiter Jésus, de voir Jésus comme notre modèle, de nous comporter comme lui, pour que nous puissions être, je ne veux pas dire que nous pouvons être sans péché, mais nous devons éviter les péchés. Et nous avons aussi la possibilité de nous repentir pour que nous puissions être saints et pour mériter le royaume des cieux. Non, Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime les pécheurs, parce qu'il sait qu'un pécheur peut se convertir et maintenant mériter sa place auprès de lui. Bon, j'ai repris ici quelques caractéristiques, plutôt quelques qualités que Jésus a montrées, que nous pouvons imiter. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas tout mettre pour la présentation, mais ce que je voulais mettre ici, c'est que dans notre effort de suivre l'exemple de Jésus, nous devons voir ses qualités, comment se comporter, essayer de le suivre pour que nous puissions être en communion avec son Père, avec Dieu. Et le premier qualité, c'est la piété. C'est la piété. Parce que, au Jean 14, verset 31, il dit, afin que le monde sache que j'aime le Père, je fais exactement ce que le Père m'ordonne de faire. Ça, c'est Jésus qui parle. Ça veut dire que moi, je suis son fils et je ne peux pas me permettre de faire autre chose que ce que Dieu me demande de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aussi, si nous voulons être en accord avec Dieu, nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire, comme Jésus le faisait. Jésus, c'est notre modèle, c'est notre exemple. Essayons de l'imiter dans la mesure du possible. Au Jean 15, verset 10, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Ça, c'était pour répondre à la question, comment est-ce que nous pouvons rester en accord avec Dieu? Jésus nous a laissé deux commandements. Deux commandements qui résument les autres commandements qu'on avait à l'époque. Un, aime Dieu avec tout ton cœur et toute ton intelligence. Deux, aime ton prochain comme toi-même. Quand vous regardez Jésus, même qu'il a dit, tous les autres commandements que vous avez reçus peuvent être résumés dans ces deux commandements. Aimer Dieu et aimer votre prochain. Et c'est ce que Jésus faisait toute sa vie. Toute sa vie. Autre qualité de Jésus, c'est l'amour de Jésus pour les gens. Nous voyons que dans toute sa vie, quand ce qu'il faisait, il avait de la compassion pour les gens. Il avait de la compassion pour les pauvres, pour les malades, pour les rejetés, comme les personnes que les autres rejetaient parce que peut-être pour une mauvaise conduite, ou parce que, comme cette femme qu'on amène accusant de la communauté de l'adultère, des lépreux, des personnes qui avaient d'autres infirmités. Il avait de la compassion pour ces personnes-là que le monde a rejetées. Est-ce que c'est ça notre attitude aussi? Est-ce que nous avons l'habitude de voir à cette personne que les autres rejettent et c'est aussi notre frère? Et dans ses activités sur Terre, oui, il faisait de l'enseignement, mais il a fait beaucoup de miracles. Il a fait beaucoup de miracles. Et quand on regarde la Bible, on voit qu'il a fait à peu près autour de 40 miracles, exactement 37 miracles ou 47. Donc c'est beaucoup. Mais pourquoi? Est-ce que vous croyez que quand il a multiplié des pains, c'était pour que les gens disent, oh, il est extraordinaire, l'effort. Est-ce que quand il a transformé l'eau en vin, est-ce que vous croyez que c'est utilisé pour que les gens puissent l'acclamer, dire qu'il est très fort? Non, ce n'est pas ça. Il le faisait parce qu'il avait de la compassion pour les gens. Il le faisait, oui, il le faisait parce qu'il était Dieu et tout puissant, mais surtout qu'il avait de la souffrance. Chaque fois qu'il faisait des miracles, c'était pour faire du bien. Hein? Quand il guérissait des lépreux, les lépreux étaient déjà quittés, rejetés par la société. De pour faire du bien. Quand il utilisait des gens qui ne pouvaient pas les handicaper, c'est pour faire du bien. Donc, ça veut dire que lui, il regardait autour de lui des gens qui souffraient, qui étaient dans le malheur et lui portait secours. Est-ce que nous faisons la même chose? Est-ce que nous faisons la même chose? Est-ce que quand nous passons dans la rue, que nous voyons un mendiant, et qui demande quelque chose. Est-ce que nous donnons, est-ce que nous offrons quelque chose à son mendiant? Est-ce que quand crie qu'il a faim et que nous avons de l'argent dans nos poches, est-ce que nous avons ce geste pour l'aider? Non. Je dis non, parce que dans mes études, beaucoup de gens ne le font pas. Et donc, ce n'est pas l'amour pour tous les humains qui a accepté de souffrir et de mourir pour eux. Mais là, ça c'est le comble le sommet de son amour. D'aimer les gens, d'aimer les humains, jusqu'à accepter de mourir, alors qu'on est innocent. Ça, c'est extraordinaire. N'oublions pas que Jésus était Dieu. N'oublions qu'il était tout-puissant. N'oublions pas qu'il aurait pu faire tout ce qu'il a fait sans mourir. N'oublions pas que même de la croix, il aurait pu décider de descendre, tout simplement de disparaître parce que c'était Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Il a accepté de souffrir jusqu'au bout. Pourquoi l'a-t-il fait? Il l'a fait parce qu'il voulait nous montrer un exemple. Pour nous montrer que, oui, même si nous sommes des chrétiens, la vie ne sera pas toujours rose. Il y aura toujours des difficultés. Mais que ce qui est important, ce n'est pas la vie que nous avons ici sur cette terre. Ce qui est important, c'est la vie dans le nouveau monde. C'est la vie au paradis. C'est la vie. Nous parlons du nouveau monde parce que, après, son le monde que nous avons ici aura une fin parce que son monde était pur. Son monde était de difficultés, de maladies, de tueries, de vengeance, de crimes, de faim, de soif. Il n'y a pas de neige comme on a dit ce matin. Il n'y a pas de soleil. Mais nous aurons un monde auprès de Dieu. Un monde où nous aurons tout. Un monde où il n'y a pas de problème. Un monde où il n'y a pas de malheur. Un monde avec Dieu. Un monde où tout cela que du bonheur. Et c'est ça que Jésus est venu prêcher. Il dit, oui, vous êtes ici, mais il y a un monde nouveau, un monde meilleur auprès de mon Père. Et je vous demande de vous préparer pour ça. Oui. Dans les deux évangiles, je crois que c'est Marc, les gens aussi, où Jésus dit aux gens, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce royaume de Dieu, meilleur, tu ne peux pas y entrer avec tes péchés. Tu dois te dépouiller de tes péchés pour que tu puisses y entrer dans son monde de nouveau. L'autre caractère de Jésus que je voulais souligner, c'est la générosité de Dieu. Et acte 20, verset 35, Jésus même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous savons que Jésus ne possédait pas grand-chose sur cette terre, mais le peu qu'il avait, il le partageait avec les autres. Oui, le sens de savoir que ce que nous avons, nous pouvons partager avec les autres. Ça vient aussi de nous, les humains. Ça vient aussi de l'idée que nous, ce que nous avons, l'argent des biens que nous avons vu ça dans une autre prédication, que tout ce que nous avons reçu. Parce que la Bible nous dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Ça veut dire quoi? Tout ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu. Mais si tu as tout ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu, toi aussi, n'hésite pas à donner aux autres qui n'ont rien. Parce que toi aussi, tu l'as reçu. Donc, c'était l'énoncé de Dieu, c'est une qualité qui nous interpelle pour que nous puissions être généreux, qui nous appelle à regarder à gauche, à droite de nous, pour voir ce que nous pouvons faire pour aider les autres. C'est très important. L'autre qualité que Jésus avait, c'était l'humilité. N'oublions que Jésus était un Dieu. Il était tout puissant. La Bible nous dit que c'était le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Ça veut dire qu'il est plus grand, plus riche, plus important que tous les grands rois et tous les grands empereurs que nous connaissons. Il était grand. Mais nous regardons comment il a vécu. Il est dans une étable, démuni, il n'avait rien. Il a vécu chez un ouvrier, Joseph, qui n'était pas riche. Et toute sa vie, il n'y avait aucun signe de richesse qu'il pouvait avoir, même pour manger. Et surtout pour y avoir ses disciples partout où ils allaient. Donc, cette humilité, c'est vraiment une qualité que nous devons avoir. Il faut savoir que nous, notre personne, n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est notre relation avec Dieu et c'est notre relation aussi avec les hommes. Et je disais que les trois événements donc de Noël, qui est cette fête de la nativité du Christ, et la fin de l'année, et le début d'une année, il y avait une sorte de connexion, de relation. Parce que Noël, c'est la venue du Christ, et la fin de l'année, quand le Christ est venu, c'était la fin d'une époque. C'était la période où on a des choses qui ont commencé à changer. Jusqu'à maintenant, on parle avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. La fin de l'année aussi, quand l'année arrive, plutôt prend fin, c'est la fin d'une époque. On commence à la fin de l'année et au début de l'année, maintenant, nous commençons à dire l'année passée. L'année passée, c'était une autre période. Et aussi, quand Jésus est venu, quand il est venu sur la terre, c'était une nouvelle période. Et là, avant lui, c'était l'ancien temps. Et la Bible nous dit de changer aussi, de changer dans notre intérieur, de changer comme le temps change. De changer comme le temps a changé après Jésus et de devenir de nouvelles créatures. Ça veut dire que pour être, quand vous êtes chrétien, la Bible nous dit que vous devenez une nouvelle créature. Les anciennes choses changent. L'homme nouveau doit changer. Votre comportement doit changer parce que vous êtes une nouvelle créature. Et c'est ça. Ce que je mets comme corrélation entre l'arrivée de Jésus et la fin d'une année, ou la fin d'une époque. Mais c'est aussi le début. Jésus, quand il est arrivé, c'est le début d'une époque. Une époque où Dieu a vécu avec nous. Et nous savons que nous aussi, dans la vie pratique, quand nous sommes au début de l'année, nous commençons avec de nouveaux espoirs. De nouvelles résolutions, de nouveaux projets. Nous dit, ah, cette année-ci, on doit faire ça, 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 ça. Et pour le faire, des fois, nous regardons le passé pour voir l'année passée, je devais faire ça, ça. Est-ce que je l'ai fait? Si je ne l'ai pas fait, ma résolution est de planifier pour faire mieux que ce que j'ai fait l'année passée. Mes chers amis, je vous demande maintenant, je vous prie aussi de regarder dans votre vie, dans votre vie. Et de faire de nouvelles résolutions, de nouvelles résolutions concernant votre vie. Nous avons vu l'exemple de Jésus qui est venu. Nous avons vu comment il a vécu. Mais nous aussi, nous avons notre vie. Si nous vivons aujourd'hui, le 7 janvier 2024, ce n'est pas parce que nous sommes plus forts que les autres, ce n'est pas parce que nous sommes plus méritants que les autres, ce n'est pas parce que nous sommes plus sains que les autres. C'est tout simplement parce que tu as voulu que nous soyons vivants. Dieu nous a donné ce souffle jusqu'à maintenant. Et nous devons en profiter. Nous devons en profiter pour changer, pour faire de nouvelles résolutions, pour faire de nouveaux projets, pour que nous puissions nous rapprocher davantage de Jésus et de Dieu. En imitant sa vie, nous avons vu cette qualité, il y en a d'autres. Mais la Bible nous donne toutes les qualités de Jésus, tout le comportement de Jésus que nous devons suivre pour que nous puissions rester dans son entourage, sous sa protection. Et au début de cette année-ci, bien, Ce que nous devons faire en premier lieu, c'est de déclarer notre reconnaissance avec Dieu pour son amour, en nous enviant son Fils unique pour nous sauver de la mort. Je crois que Dieu, c'est, nous l'appelons notre Dieu miséricordieux. Nous sommes des pécheurs, mais Dieu ne nous oublie pas. Il est prêt à nous pardonner. Il est prêt à nous pardonner quand nous nous repentissons. Donc, nous devons nous connaître, déclarer notre reconnaissance. C'est ce que nous avons fait la semaine passée quand nous avons fait des témoignages. Des gens qui ont déclaré reconnaissance pour que Dieu a dit merci Dieu parce que tu m'as protégé. Merci Dieu parce que tu m'as donné ce que je voulais l'année passée. Nous devons continuer à le faire tous les jours. C'est tous les jours que nous devons rendre grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il nous doit. Deuxième résolution, c'est de revoir notre vie au cours de l'année écoulée et de détecter tout manquement, tout péché que nous avons commis et de demander pardon. Il est important de demander pardon parce que tant humain, nous commettons des manquements, des péchés, des égarements, mais Dieu est prêt à nous pardonner, je le répète, parce que c'est un Dieu de miséricorde. Oui. Nous devons lui être reconnaissants de ce qu'il a fait. Nous devons revoir ce que nous avons mal fait, ce que nous avons omis de faire, et demander pardon. Mais surtout, nous devons imiter le modèle de vie de Jésus en adoptant ses qualités, sa sainteté, sa piété, son amour, son humilité. C'est l'apôtre Paul qui le disait souvent, il a dit surtout dans les derniers épîtres aux Colossiens, aussi au Philippiens, le mot sainteté vient souvent. Le mot sainteté, le mot piété, amour, vient souvent. Quand Paul demande aux gens vraiment de se comporter comme Dieu, la sanctification, c'est le processus d'essayer de vivre en imitant Jésus. Donc, la Bible nous dit que nous devons être des imitateurs du Christ. Ça veut dire que Christ est notre modèle et tout ce que nous allons faire, c'est de l'imiter. Et en dernier lieu, c'est d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Ce sont des mots que nous répétons souvent, mais est-ce que nous comprenons le sens? Accepter Dieu comme notre Seigneur, notre Sauveur. Dieu est notre Seigneur parce que c'est le roi des rois. C'est parce que c'est le maître de tout l'univers. C'est notre Seigneur, mais il est aussi notre Sauveur parce qu'il est venu nous sauver, parce qu'il est descendu pour nous sauver, parce que son Père l'a envoyé en mission pour nous sauver. Mes chers amis, le message que je voulais vous transmettre, c'est celui-ci. C'est de nous dire, oui, nous avons fêté Noël, mais Noël, ce n'est pas une fête. Mais Noël a un sens profond pour nous. Noël dit, c'est un événement. C'est pour cela que nous avons cette période qu'on appelle l'Avent, les 4 semaines qui précèdent Noël. Et, donc, Noël nous rappelle qu'il y a quelqu'un qui est venu en mission. Et ce quelqu'un, c'est le Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu est venu transformer le monde. Mais comme nous sommes encore dans ce monde, que nous avons encore la chance de rattraper cette opportunité et de le suivre. Et je terminerai par la citation de Chroniques, je crois, verset 14, qui dit, si mon peuple s'humilie, qu'il prie, et qu'il se repent, et qu'il se détourne du mal, je l'exaucerai. Je le pardonnerai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peu importe la qualité, l'abondance, la gravité du péché que nous avons commis, peu importe l'état mauvais dans lequel nous nous trouvons vis-à-vis de Dieu, Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Si nous acceptons, comme il dit, de nous humilier, hein, de prier, de nous repentir, de nous détourner, donc changer le comportement, de tourner du mal, il est prêt. Il est prêt à nous pardonner. Il est prêt à nous sauver. C'est ça, mon message que je voulais vous transmettre. Et que Dieu soit loué. Amen.
Amen.